tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Ça a tiré de la valeur vers les petits malins qui ont réussi à le jouer, autant les fondateurs que les fonds. Mais en fait, la création de valeur au niveau de la société n'existe pas, c'est une destruction infinie. Le business n'a aucun espoir de rentabilité, ever. Mais le seul jeu, et le seul jeu que jouent les fonds et les fondateurs dans ce genre de cas, c'est d'espérer de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre.
Avant de vous parler de mon invité, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça me comble de joie. Alors merci, merci et merci. Petite breaking news, le podcast est désormais disponible sur Ocha, donc sur quasiment toutes les plateformes de téléchargement existantes. Alors n'hésitez surtout pas, toujours la même petite requête, abonnez-vous, mettez des commentaires et relayez le podcast un maximum, s'il vous plaît, autour de vous. Toujours dans mes remerciements, un grand merci à Vincent Rochette, qui est mon monteur, celui qui s'occupe des montages des épisodes, et sans lequel le podcast n'existerait tout simplement pas. Alors merci Vincent. Maintenant, je passe à l'invité de la semaine. On a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, et inversement. Et l'homme que vous allez entendre me donne envie de remplacer le mot « derrière » par « à côté ». Il est le cofondateur de la marque de joaillerie semi-mesure Gemio. Il est également l'époux et l'associé de Pauline Léniaud. L'impulsion de départ pour lancer ce podcast était faite de plusieurs volontés. Parler vrai, pas de bullshit. Mettre en lumière des personnalités remarquables et pas forcément surmédiatisées. Mais également faire venir autant d'hommes que de femmes, sans distinction autre que la quête de progrès social. J'ai déjà donc reçu sa femme dans mon podcast et j'ai eu envie de lui donner la parole à son tour. En écoutant cet épisode, je pense que vous aurez le sentiment d'entendre un discours non seulement brillant, mais surtout impactant par sa sincérité. On aborde plein de sujets avec lui, le Liban, les valeurs familiales, Harvard, la psychothérapie, la confiance en soi, la peur, l'entrepreneuriat, l'écologie, la parentalité et le gaming. J'ai passé un moment absolument génial avec Sharif, c'est une immense chance de l'écouter. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Sharif Debs, le génial cofondateur de la marque Gemio. Sharif, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée.
Je suis flattée et très heureux de te voir, Estelle.
Tiens, je vais te demander de te présenter, autant si je puis me permettre, professionnellement que personnellement.
Ok. Je m'appelle Sharif Debs, j'ai 36 ans. Je suis un immigré de première génération, deuxième génération, je sais pas comment on dit. Je suis né au Liban, mais je suis arrivé en France très très vite. À titre personnel, j'ai eu une vie en, on va dire, trois phases. La première phase de ma vie, mon but était d'être un gentil premier de classe, parce que mes parents, j'imagine, j'avais envie de leur plaire, et donc j'étais juste premier de classe, et avec les joies, les avantages que ça a et les inconvénients que ça apporte. J'ai une deuxième phase de ma vie où j'ai cherché une femme. Et ça a duré quelques années, j'étais un petit peu surexcité, je savais pas où chercher, je m'inquiétais de pas trouver ou pas trouver la bonne. Et c'est une phase qui s'est terminée d'un coup quand j'ai rencontré Pauline, que tu connais, qui est mon épouse maintenant. Et le lendemain a démarré une dernière phase qui est de comprendre à quoi je servais et quelle serait ma carrière. C'est une phase qui a été assez longue et qui est toujours en cours et en devenir. Donc ça, c'est trois phases de la vie à titre perso. À titre professionnel, du coup, si je fais un zoom sur la phase numéro 3, qui est comprendre à quoi je sers, et d'autant plus que je ne vais pas avoir d'enfant, parce que Pauline et moi ne voulons pas d'enfant, donc ça se pose encore plus la question de à quoi on sert. La première partie, c'était une partie d'errance dans laquelle j'imagine que je transposais un peu le côté premier de classe. Je me disais, qu'est-ce que font tous mes amis qui sortent d'école? Ils faisaient tous du conseil et de la banque. J'ai terminé en conseil et banque sans trop réfléchir. C'était sympa parce que ça paye bien et qu'on voyage bien. Mais je me suis rendu compte que c'était ennuyant, enfin que je m'ennuyais et que ça manquait de sel, d'aventure ou d'impact. Autour de moi, les gens que j'admirais, c'était toujours des hommes d'affaires ou des entrepreneurs, des gens indépendants, des gens que, d'ailleurs des gens que tu peux connaître toi bien et celles dans, autour de toi, t'es pas mal entouré. Ces gens-là, ils avaient une liberté de mouvement, une liberté de parole que j'admirais et qui me fascinait. Mmh. Et du coup, j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir de ce côté-là et que je sorte du monde corporate. J'ai voulu faire un sabbatique. Mon meilleur ami à l'époque partait en MBA parce que sa boîte lui demandait de faire un MBA. Je me suis dit, bon, bah, plutôt que de faire un sabbatique, je vais faire un MBA. On verra bien. Alors, ça m'a coûté très cher, mais ça valait la peine.
Tu peux dire où c'était ?
Alors, c'était à Harvard. Mmh. Donc, encore une fois, le côté premier de classe probablement, même si, pour être honnête, j'avais été pris à plusieurs MBA de premier de classe, mais j'avais senti que Harvard me touchait plus parce qu'il y avait un côté entrepreneurial, mais pas entrepreneurial comme on l'entend à Stanford, c'est-à-dire tech, software, c'était plus les affaires. Et ça avait un côté moins sectaire de si tu fais pas du software, tu sers à rien. C'était, il y avait vraiment des gens qui créer des entreprises magnifiques, des univers entiers autour de brosses à chiottes ou de d'armoires. Et en fait, ça me plaisait comme état d'esprit. Donc, 2 ans de MBA, on pourra en reparler si ça t'intéresse.
Oui,
et à l'issue, la conviction que oui, il fallait que je me mette à mon compte. Et au retour du MBA, démarrer la première et unique entreprise pour l'instant, qui est une entreprise de joaillerie qui s'appelle Gemio, que j'ai cofondée avec mon épouse Pauline Léniaud et mon frère et 2 autres personnes qui sont parties depuis. Et c'est le cœur de l'aventure depuis 8 ans maintenant.
8 ans.
Est-ce que la présentation te convient ? Trop détaillée, trop court, trop long ? Ça va ?
C'est nickel. En fait, je vais juste te demander de revenir un petit peu, si c'est possible, sur ton environnement familial. Toi, tu penses être arrivé d'où ou venir d'où ? Et aussi, peut-être un peu de ce que tu as pu apprendre. On parlait d'Harvard, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que ça fait quand même... Soit ça fait peur, soit ça fait rêver, Harvard, je crois, surtout en France.
Ok, alors, d'où je viens et ensuite Harvard. Ouais. Alors, d'où je viens ? Je viens d'une famille méditerranéenne, très chaleureuse, avec des parents adorables qui ont toujours tout fait pour leurs enfants, qui se sont toujours assurés qu'on soit très très bien nourris, et qui, en fait, dans les Libanais, je vais faire. C'est vrai, en plus j'ai un bon métabolisme parce que j'ai de la chance là-dessus, parce que sinon honnêtement au sein des Libanais, alors il y a plusieurs types. Quand on voit le Libanais, on imagine souvent des gens qui viennent de grandes familles assez riches, entrepreneuriales, de familles business et qui se baladent en Mercedes dans le 16e en général. Ma famille n'était pas du tout comme ça. Ma famille était beaucoup plus, donc ma mère a été éducatrice spécialisée et devenue mère au foyer quand je suis né, et mon papa était employé de banque, il a gravi les échelons progressivement, mais il est rentré vraiment tout en bas. Et du coup, on était vraiment la famille d'émigrés, je pense, de l'immigration choisie, comme dirait Sarkozy. C'est-à-dire, mes parents nous ont toujours dit, sont toujours attachés à ce qu'on s'intègre, à ce qu'on respecte les règles du pays dans lequel on était, à ce qu'on fasse, qu'on respecte l'école de la République, les lois de la République, et qu'on fasse de notre mieux. Ça a d'immenses avantages, c'est que du coup, on a eu une discipline de vie et une morale de l'effort, je pense, qui est excellente et qu'on a gardé toute notre vie. Il y avait une limite, c'est que au-delà de réussir à l'école, derrière, il n'y a pas grand-chose, à part être heureux, mais c'était assez flou, donc ça ouvre beaucoup de choses, mais en fait... Ça laisse beaucoup de questions. Et il y a un bouquin que j'ai lu d'ailleurs en arrivant à Harvard, qu'un de mes amis m'a recommandé de lire, que je recommande à beaucoup de gens qui me ressemblent de lire, qui s'appelle Rich Dad, Poor Dad, ou c'est Poor Dad, Rich Dad d'ailleurs, de Robert Kiyosaki, et qui est un bouquin qui décrit exactement ce que je pense avoir été ma situation à l'époque. C'est deux meilleurs amis, dont l'un, les parents sont des enseignants ou des fonctionnaires qui veulent que ses enfants fassent très très bien des études et c'est tout. Et l'autre, qui est un papa homme d'affaires, qui surveille de moins près les devoirs de son enfant, mais lui apprend les bases de « tu veux t'acheter un bouquin, ben tu vas bosser pour gagner tes 10 centimes qui vont te permettre d'acheter ton pain au chocolat ou ton bouquin ». Et en fait, ça raconte les deux parcours, et c'est formidable comme bouquin au niveau fictionnel, au moins la première partie, ensuite ça devient un peu différent, les chapitres suivants. Mais dites-vous que moi, j'étais Alors, je ne veux pas dire poor dad parce que mon papa n'est pas comme ça, mais je faisais typiquement partie de cette famille. J'aurais pu être fils d'enseignant. Et, donc voilà, ça, c'est d'où je viens.
Mmh. Alors, attends, juste sur le Liban.
Ouais.
Est-ce que tu as vécu là-bas? Pas du tout.
Alors, donc je suis né là-bas. Mes parents, ce que raconte mon père, c'est que donc je suis né en 83, qui était l'une des pires années pour la guerre. Mes parents n'avaient pas spécialement de moyens et du coup, ils étaient terrés la plupart du temps dans un couloir, d'après ce que j'ai compris, avec leurs voisins. Enfin, c'était l'endroit le plus sûr de l'immeuble. Et eux disent que en fait la guerre on s'y habitue, donc c'est un peu comme tout ici en France, dans des pays riches comme les nôtres, les gens s'insurgent de tout et n'importe quoi. Là-bas, manifestement, ils vivaient depuis quelques mois dans un couloir avec de l'eau, et puis ils attendaient que les bombardements cessent. Et ils n'avaient pas vraiment prévu de s'en aller en fait. Il paraît que ce qui les a fait changer d'avis, c'est que moi j'étais donc nourrisson, enfin j'étais un petit bébé, et il paraît que j'avais pas peur et je pleurais pas, mais j'avais les yeux écarquillés à chaque fois qu'on entendait les bombardements toute la journée, que je passais mon temps à regarder, à essayer de comprendre quels étaient ces bruits étranges, et qu'un jour ça a brisé le cœur de mes parents et qu'ils ont décidé de faire le grand saut, ce qui à l'époque était très courageux parce que d'après ce que j'ai compris le récit, il devait passer, il y avait pas d'aéroport à l'époque, et même on pouvait même pas prendre le bateau, c'était très dangereux. Donc il fallait passer la frontière en Syrie, puis attendre dans des nuits d'hôtel, puis prendre un avion, je sais même pas s'ils avaient de leurs papiers. Une vraie immigration à la dure. Et donc l'idée de mes parents, c'était de vivre en France et ensuite de rentrer au Liban dès que ça se calmait, mais en fait ça s'est pas calmé avant très très longtemps, 8 ou 9 ans plus tard, et du coup ils ne sont jamais rentrés, je suis jamais rentré, je suis juste retourné pour les étés. Donc je connais le pays culturellement, je comprends bien le Libanais mais je parle mal, et je le connais uniquement en vacances, je connais mal le pays au-delà de ça. Mes réponses sont trop longues, Estelle,
ou pas ? Non, mais pas du tout, mais parce que tout mériterait, le Liban, ça mériterait plus de temps, mais après bon.
Alors je le connais pas, en fait je le connais, j'ai une connaissance imparfaite qui s'est arrêtée tôt, et je pense que je le connais un peu comme un touriste, pas aussi bien que certains de tes amis probablement, donc
C'est un pays qui me fascine, et c'est vrai, c'est une population qui me fascine, et voilà, mais bon.
Écoute, c'est une population, moi aussi, et en fait ce que j'ai aimé, enfin je pense que ce que j'ai reconnu et ce qui m'a attiré, et ce que je vois beaucoup dans certaines populations, on va dire les populations sémites, les Libanais font partie des populations sémites et arméniennes, en fait tous ces marchands de l'Est qui ont un sens du commerce et un sens des affaires, moi je trouve ça m'éclate en fait, et je sens qu'ils ont une vie haute en couleurs, où ils voient beaucoup de choses. Tiens, un autre bouquin à lire, Marco Polo, The Journeyman, c'est la biographie romancée de Marco Polo. On voit un peu ces gens qui découvrent le monde et rencontrent des gens et s'amusent.
C'est ça.
Ça me plaît.
Il y a une gaieté intrinsèque incroyable.
Voilà.
Du coup, est-ce que on peut revenir sur Harvard, juste pas forcément en parler trop longtemps, mais qu'est-ce que t'as appris avec le recul, parce que c'est intéressant justement de l'analyser 8 ans après la création de ton entreprise. Qu'est-ce qui a vraiment été indispensable pour toi à Harvard?
Ouais, très bonne question. C'est parce que en fait, quand j'y pense, donc déjà ça coûte très très cher. Donc c'est une bonne question que tu poses. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait de tout l'argent que j'ai économisé pendant les premières années de ma carrière, parce que j'ai concrètement tout mis là-dedans. Alors,
déjà, tu as pas donné les lieux dans lesquels tu as bossé, mais on n'en parle pas.
Si, on peut. C'est j'étais dans une boîte de conseil à l'époque qui s'appelait Mercer Oliver Wyman, qui était une boîte de conseil spécialisée dans les services financiers, qui était séparée de Mercer. Et ça m'avait touché parce que comme c'était une petite boîte, elle était plus entrepreneuriale. Il y avait des salaires fixes très bas et des salaires variables la partie variable très élevée. Donc c'était un peu méritocratique. C'était plus l'aventure. C'était moins feutré, pompeux que McKinsey, Bain et BCG. En revanche, les services financiers, sincèrement, j'avais pas du tout d'affinité, et je me suis retrouvé là un peu par hasard. Ça a été génial pendant les premières années, et ensuite ça a fusionné avec Mercer. C'est devenu un gros machin qui ressemble plus aux boîtes de conseil type BNBCG, mais en moins prestigieux d'ailleurs. Et en fait, c'est plus le passage à grande entreprise très normée avec moins cette partie entrepreneuriale. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il fallait que je parte. Alors, Harvard, ce que j'en retiens déjà, la première chose, c'est que c'était des années magnifiques où je me suis éclaté. Donc ça, c'est déjà la base. J'en ai un excellent souvenir. Deuxièmement, moi, j'avais jamais vécu à l'étranger. J'avais fait des séjours longs au Liban, par exemple, mais j'avais jamais vécu vraiment à l'étranger. Et le fait de vivre 2 ans à l'étranger, loin de ma famille, loin de ma culture, loin de la France, juste par le changement que ça apporte et l'ouverture, un plus supplémentaire. Ensuite, le premier truc que ça va paraître arrogant quand je le dis, mais ça ne l'est pas. C'est, je pense que c'est l'un des buts de Harvard, et je vais y revenir quand je vais vous expliquer qui va à Harvard. C'est que ça m'a décomplexé. Parce qu'en fait, j'étais ingénieur de formation et j'étais convaincu, dès qu'on utilisait un mot investissement, compta, private equity, et obligation convertible, je baissais la tête en me disant, en tout cas, moi, je suis pas un trader, j'ai pas d'argent, je comprendrai jamais, je serai un gentil ingénieur, quoi. Et j'avais vraiment une forme de honte et de complexe. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont un peu à l'américaine et Harvard fait en sorte que tout le monde soit décomplexé et tu te rends compte au bout de 3 mois, dès le premier semestre, on va dire, que globalement, il y a très peu de notions qui sont inaccessibles, que les gens utilisent beaucoup de mots pompeux pour des trucs, des concepts finalement simples quand ils sont bien expliqués, et que surtout, il y a des gens dont, enfin, parce que moi j'avais peut-être un problème de confiance en moi et de self-esteem qui était fort, il y a des gens qui ont l'habitude de parler avec une espèce de confiance en eux qui est incroyable, du coup ils te sortent des mots, surtout à l'américaine, avec leur voix très très basse. Ils disent, yeah, private equity, blah, blah, blah. Et du coup, et en fait, quand je les ai décodés, que j'ai compris que ce qu'ils avaient dit était soit n'avait pas de sens, soit était complètement stupide, ou n'avait pas. Bah, en fait, ça m'a libéré. Je me suis dit, en fait, non, ça va. Je peux comprendre. Donc, ça, c'était le deuxième apport. Troisième apport, qui est pas du tout celui qu'on imagine. Tout le monde est convaincu que c'est les cours, etc. En fait, je pense que c'était une école de la vie intéressante. Quand on arrive à Harvard, on nous fait faire des tests de personnalité. Et je fais un test de personnalité, donc c'est un truc assez long. Et en fait, il y a un coach qui lit le test de personnalité et qui me dit, Monsieur Depps, vous avez un moral, vous avez une personnalité d'entrepreneur. Vous avez intérêt à faire des affaires, ça va vous plaire. En revanche, on détecte un problème, vous avez un problème de confiance en vous. Et ça, c'est grave parce que on estime que on a 100 ans d'expérience, c'est la plus vieille business school, je crois, du monde. On a 100 ans d'expérience. Nous, on estime que si on n'a pas confiance en nous, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne réussirez pas. Donc, on va vous payer, je crois que c'était 90%, d'une espèce de psychanalyse, un truc comme ça, pour vous aider à prendre confiance en vous. Est-ce que vous êtes partant? Et c'est vous incroyable. Payez juste 10% ou 20%.
C'est incroyable, c'est
proposé. Et moi, ça me serait jamais venu à l'idée en tant que Français. Le divan, le truc, enfin, c'est pas un divan en l'occurrence, mais j'aurais eu honte. Je me serais dit, enfin, tous mes potes seraient foutus de ma gueule. Comme j'étais loin et que du coup, j'avais pas d'attache et que je pouvais le faire sans avoir à me justifier, ben, je l'ai fait et c'était absolument dingue.
Et c'est incroyable qu'ils te proposent ça.
Eh ben, c'était visionnaire. Ouais. Et honnêtement, j'allais dire, je me demande si c'est pas.
Vu ce qu'on vit actuellement avec une sorte de démocratisation de la psychanalyse, c'est impressionnant de.
Du coaching, de se faire aider, de se faire écouter, et que c'est pas honteux, que c'est pas pipeau. Et puis même si ça sert à rien, c'est comme un placebo. Moi, ça me pose pas problème de prendre des placebos si je me sens mieux après.
Non, mais les écoles de commerce françaises devraient s'inspirer de ça.
Honnêtement. Une fois de plus, c'est l'un des trucs que je retiens le mieux de toute cette expérience, c'est qu'ils aient eu le courage. Alors, ils ont la crédibilité, la légitimité de me dire, OK, we're a business school, mais to learn business, on va devoir vous mettre au carré d'un point de vue confiance en vous. Je trouve ça dingue.
Incroyable.
Donc voilà. Et le dernier truc.
J'ai bien fait de te parler d'Harvard parce que tu vois, tu viens de m'apprendre un truc que je savais pas du tout. Enfin, c'est ce MBA en particulier.
C'est le programme MBA, mais je suis. Alors, tous mes amis, on leur a pas demandé de faire une psychanalyse, hein. Mais en revanche, le côté, le fait d'aborder d'un point de vue très personnel et très intime la carrière, ils le font très bien. Ils te forcent pas. À aucun moment, t'as plein de cours électifs que t'es pas obligé de prendre et tout. Mais en réalité, d'ailleurs, les Français, en général, et les Françaises, il y avait beaucoup de Françaises, ont eu plutôt tendance à le faire et en garder de bons souvenirs. Et enfin, le dernier truc que Harvard t'apporte, c'est le réseau.
Bien sûr.
Et le réseau, en fait, Harvard, c'est un mix assez malin dans lequel mon interprétation, mais je pense que ça doit pas être loin de la vérité. En fait, ils prennent un mix de gens qui n'ont pas de réseau, n'ont pas d'argent, n'ont pas de famille, n'ont pas de puissance, mais ont prouvé par certains indices qu'ils regardent, comme le GMAT, tes notes à l'école, ou ce genre de trucs, que t'es discipliné, motivé, bosseur, et que t'en veux, t'es hungry, voilà. Et un mix de gens qui ont un réseau, de l'argent, une puissance, enfin des fils d'eux, des filles d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disciplinés, hein, ou qu'ils ne peuvent pas être les deux.
Mais en tout cas, ça crée un écosystème.
Exactement. Et du coup, moi, je me suis retrouvé, surtout n'étant pas sûr de moi ou n'ayant pas côtoyé les grandes secondes avant, je me suis retrouvé côte à côte avec des personnalités similaires à la mienne. Des militaires qui ont, alors pour le coup quand moi je dis je suis discipliné, j'ai découvert les militaires, les anciens militaires ou les athlètes olympiques et j'ai compris que j'étais une guimauve, et des gars qui clairement n'étaient pas forcément très disciplinés mais qui avaient un sens des affaires et une connaissance du monde via leur papa qui était le président de JP Morgan ou le fondateur de YouTube qui était dans la promotion ou ce genre de choses, qui ont une vision et une hauteur de vue que je ne connaissais pas. Mmh. Et ça, ce mix, tu les croises pour prendre ton muffin du matin ou ton café de l'après-midi, ça t'ouvre les chakras.
Bah c'est impressionnant. C'est une chance incroyable. Ça coûte combien, Harvard ?
Alors, ça coûte très cher.
Ouais.
Mais c'est... Donc, facialement, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que pour 2 années, si tu comptes la nourriture sur place, la location...
Tu n'es absolument pas obligé de répondre, hein, si tu veux.
Non, pas du tout. Non. Bah, c'est public, je crois que si n'importe qui fait une recherche. De mémoire, ça devait coûter quelque chose, les 2 années complètes, donc c'est 2 années complètes, et puis il faut se loger, et puis il faut manger.
Ça doit être
il faut sortir. Je crois que c'était quelque chose comme 180 000 ou 200 000 dollars, donc ce qui était très cher déjà à l'époque. Maintenant, c'est un système dans lequel, en fonction de vos moyens, j'ai des amis qui l'ont fait en même temps que moi, qui ont payé, je crois, quasiment rien. Où on leur a demandé de payer leur nourriture, vaguement leur loyer. Mais par exemple, les tuition fees, donc, qui doivent représenter 70%, étaient entièrement couverts par l'école. Et ensuite, c'est graduel en fonction des métiers que tu as eus. Si tu viens du conseil, c'est différent de si tu es athlète de haut niveau ou si tu es militaire. Tu n'as pas forcément les mêmes moyens. Et tout est très... C'est intelligemment fait, sincèrement.
Ben, je vois ça. Je vois ça. Quel a été l'élément déclencheur ? Déjà, ta rencontre avec Pauline, je crois qu'elle remonte à longtemps maintenant, non ? Ça fait combien de temps ?
On se connaît depuis qu'on a 13 ou 14 ans, l'âge de 13 ou 14 ans. Mais on a été amis pendant quasiment 10 ans, 8 ans, avant qu'on devienne copains, copines, petits copains, petites copines, à l'âge de 22 ans.
C'est beau.
C'est très beau. Alors, c'est un peu... ça s'est fait en 2 temps, manifestement. Ouais. On a été amis, on a été vraiment amis. On ne faisait que ricaner ensemble à faire des mauvais coups. Il n'y avait aucune espèce de, je pense, de son côté comme du mien, d'attirance. Puis ça a un peu changé dans les 2 dernières années avant qu'on sorte ensemble. Puis on s'est raté plusieurs fois parce qu'il était maqué ou moi j'étais maqué un peu au même moment. Et quand toutes les étoiles se sont alignées, et puis moi j'avais fait une démarche très très précise pour arriver à la conclusion qu'il fallait que je sorte avec elle. J'ai un peu honte de raconter ça, mais ça vient d'un processus d'ingénieur. Là j'ai tiré juste, et elle a dit... Non d'ailleurs, elle a dit non d'abord, mais j'ai insisté parce que j'étais sûr de moi, et elle a dit ok ensuite.
Bah, tu vois que t'as de la confiance en toi.
En fait, alors ça c'est comme ça que je me décris, en fait je suis très torturé tant que j'ai pas pris de décision, quand je sais pas...
C'est comme
pas...
tout le monde, non?
Ouais,
je crois que c'est comme tout
non,
le monde.
Non, bah, tu vois, Pauline, elle est pas comme ça, pas torturée comme femme. Non, il y a des gens, qui sont un peu, moi, je les appelle inconscients, c'est une forme de jugement, c'est pas ça. Au contraire, je les envie parce qu'ils ont une vie joyeuse. Non, je suis un peu torturée avant d'avoir pris une décision. Une fois que j'ai pris une décision, je suis une machine de guerre.
D'accord.
Rien ne m'arrête.
Alors, la décision de créer Gemio, justement, c'était il y a 8 ans.
Ouais.
Moi, je me souviens des débuts de Gemio. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus, pas forcément toute l'histoire d'où vous est venue l'idée, mais voilà, de passer le pas, de se dire on crée une entreprise, on est mariés mais on crée une entreprise ensemble, parce que c'est une double mariage. J'avais posé un peu la même question à Pauline. Aujourd'hui, ça commence peut-être à être un peu plus démocratisé de travailler en couple, mais je pense que c'est quelque chose qui fascine encore une fois, enfin tu vois, qui pose question. Et puis surtout d'avoir voulu créer la boîte ensemble, en fait, parce que parfois ça arrive, quelqu'un lance quelque chose et son mari ou son épouse la rejoint ou le rejoint plus tard, mais là vous avez eu l'impulsion ensemble.
Alors déjà au niveau de donc comment ça s'est fait, la réalité c'est quand j'étais à Harvard, donc suite notamment à la lecture de Poor Dad Rich Dad, je me suis dit ok, faut que je crée un truc, je sais pas quoi. Et en réalité, quand j'étais à Harvard, j'ai joué avec des projets peut-être 3-4 projets qui n'ont jamais vu le jour ou qui ont vu le jour mais qui ont tenu 3 mois et puis au bout d'un moment je me suis lassé ou ça marchait jamais, et dont l'un d'eux en fait, Pauline, à distance, elle était en France à l'époque, moi j'étais à Boston, et avait dit, tiens, ça me fait, parce qu'elle était, elle faisait des études littéraires, je crois, à l'époque, et du coup, le simple fait d'avoir un projet, ça l'excitait, du coup, elle s'était proposée de bosser avec moi sur le dessus, et je me souviens m'être dit, c'était 2 ans avant le début de Gémio, ah, c'est super cool de travailler avec des gens qu'on apprécie, dont on apprécie l'intellect et le ping-pong, donc en fait, j'en garde un bon souvenir, mais il n'y avait aucun projet qui n'accrochait. Quand je suis revenu en France, en fait, je ne savais toujours pas exactement ce que j'allais faire. Et j'avais plusieurs idées, dont celle de Gémio. Et en fait, c'est Pauline, une fois de plus, qui, avec son côté décideur et un peu inconscient, m'a dit, écoute, Charif, ça suffit, tu te tortures trop, là. Tu vas encore prendre 3 mois pour réfléchir à quel est le business optimal, etc. Il faut juste que tu continues et que tu persistes à faire. Comme tu as fait 3 projets là pendant Harvard, il n'y en a aucun qui a abouti, ben t'en fais un autre et puis peut-être il aboutira pas, mais t'en fais un. T'arrêtes de parler, t'arrêtes de réfléchir à lequel faire. Et du coup, c'est un peu elle qui m'a basculé, qui m'a bousculé. Et du coup, j'ai choisi Gémio parce que c'était celui qui me plaisait le plus à ce moment-là. Et donc ça, c'était le choix. Et la façon de faire, alors contrairement à peut-être ce que tu disais, en fait, moi, je me suis engagé tout de suite à le faire. Et Pauline s'est proposée d'aider immédiatement, donc elle, c'est comme mon frère d'ailleurs, ils se sont impliqués tout de suite. Le fait de l'officialiser, de fait qu'elle, donc, que je lui donne des parts et qu'elle devienne associée, c'est arrivé quelques mois plus tard, donc ça a mis un peu de temps. Et qu'est-ce qui l'a dédramatisé ? C'est 2 choses principalement, parce que c'est vrai que dans le mantra, enfin la tradition occidentale, on te dit, oh là là, faut jamais travailler avec des maris et femmes, enfin tu regardes à la BNP, à la Société Générale ou chez, dans les boîtes du CAC 40, c'est rare que ce soit familial. Mais il y avait 2 choses qui s'étaient passées. Déjà à Harvard, j'avais vu énormément
de business familiaux.
De business familiaux. Ah oui. Et tout simplement, je me suis rendu compte que dans le pays, dans les, déjà dans les pays émergents,
international,
mais dans les pays émergents déjà,
ils n'ont pas le choix.
C'est l'inverse qui étonne.
Bien sûr.
En fait, donc quand je leur disais, ah oui, tu travailles avec ton oncle, ton cousin, ta femme, ton fils, ils levaient le sourcil, ils disaient, mais that's how it works. Oui. Et même au-delà, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup, quand on creusait, il y avait beaucoup de business discrets, de très belles PME en Allemagne et en France qui sont des business familiaux. Et enfin, j'avais fait une rencontre qui m'avait marqué. C'est un homme d'affaires qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Anvar Ali Jiva, qui est le père d'une amie, qui a une très très belle boîte et qui travaillait. Je lui avais dit, je lui ai parlé de mon idée. Alors, c'est une boîte c'est un concurrent de Murex, c'est-à-dire ils font du software pour des logiciels pour les services financiers. Mais c'est une très grosse boîte qui est cotée en bourse et qui est magnifique. Et je lui avais parlé à peine une demi-heure. Je lui ai parlé de mon projet et je lui avais dit j'hésite à faire Gémio parce que c'est complexe. J'hésite de le faire avec ma femme parce que c'est ma femme. Et lui m'avait dit alors déjà un business complexe c'est pas forcément une mauvaise idée. Au contraire j'aime bien les business complexes, c'est plus difficile à copier. Deuxièmement travailler avec sa femme c'est absolument pas un problème. Lui travaille avec sa femme d'ailleurs ou travaille toujours avec sa femme. Du coup je sais pas c'est quoi ces espèces de principes à respecter qui n'ont aucun sens. Libère-toi, fais ce que tu veux. Et c'est tout. Je l'ai plus jamais revu, mais ça m'a marqué, ça m'a libéré. C'est comme ça que ça a démarré.
Ouais, mais moi je trouve ça magnifique parce que je crois que ça résout beaucoup de problèmes de confiance. Parce que les vraies angoisses, souvent, des entrepreneurs, c'est de faire confiance, en fait, à leurs équipes.
Sincèrement, en fait, je suis d'accord. Si j'ai eu, avec 8 ans de recul, je me rends compte que la collaboration, il faut que ce soit donc, de la confiance et un plaisir. Il faut que ce soit à la fois simple au niveau de la confiance et que ce soit un plaisir. Mais sincèrement, ça peut être le cas avec des amis, ça peut être le cas avec la famille, ça peut être le cas avec des parfaits inconnus. Je pense que c'est des notions assez orthogonales et qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas certain de comprendre la règle. Oui, je comprends qu'il y ait des écueils parce que le soir, à table, tu continues à parler de ça, mais ça a aussi des avantages parce qu'au moins, tu as des sujets en commun.
Bien sûr.
Plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux et d'avoir rien à dire.
T'as des intérêts communs, surtout.
T'as des intérêts communs, t'as des aventures communes, des souvenirs incroyables. C'est comme si c'était un voyage tous les jours et tu dis, tu te souviens quand on a dû livrer le client en catastrophe le 12 décembre et ça te fait des aventures. Moi, je me vois, je suis au coin du feu, j'ai déjà des années d'aventures à raconter. Alors, à mes petits-enfants, non,
c'est
mais
sûr.
À toi.
Mais d'ailleurs, si tu devais citer deux, trois moments forts, alors ça peut être des moments d'angoisse, de panique, mais aussi de grand bonheur, de grande joie sur les 8 ans. Parce que 8 ans, c'est quand même beaucoup aujourd'hui pour une boîte dans le digital, c'est beaucoup. Enfin, tu le vois comme moi, il y a plein de boîtes qui soit sont vendues au bout de 2 ans, soit périclites, soit voilà. Mais du coup, si tu avais deux, trois, tu vois, mark-up forts, ça serait quoi?
Alors, c'est amusant parce que j'imagine que c'est classique. Je parle déjà comme un vieux, mais en fait, les moments, tu les après coup, avec un peu de recul, les moments excellents paraissent un peu mièvres. Et les moments extrêmement difficiles, mais vraiment pendant lesquels les idées de suicide où je pleurais tous les matins dans mon lit, je les regarde avec une forme de tendresse et presque, je les chéris presque plus que les moments de joie parce que je m'aime bien à l'époque et je me trouve courageux et je me dis que j'ai bien fait de tenir le coup. Donc en fait, le temps aplanit un peu les hauts et les bas en fait. Maintenant, il y en a quand même des saillants. Je me souviens de mon 30e anniversaire où au même moment, je me suis retrouvé, en fait, je faisais un voyage au ski, j'aime beaucoup le ski. Je fêtais mon anniversaire, ma 30e année. J'étais entouré de ma famille qui était mes cofondateurs. J'étais entouré de certains de mes investisseurs que j'adore et qui m'ont beaucoup aidé. L'entreprise se portait bien. On venait de faire une levée de fonds de 3 millions d'euros à l'époque, qui était à l'époque, en 2012-2013, une très grosse somme et dans des conditions qui étaient pas mal du tout. Pauline elle avait fait un truc un peu original. Elle avait fait venir un chef pour cuisiner le dîner, ce qui est un cadeau original, mais une expérience excellente, une super idée. Et je me souviens de ce moment m'étant dit, cette liberté d'être avec des investisseurs, cofondateurs, familiaux et de fêter de bonnes affaires ensemble. J'espère que la vie ressemblera à ça parce que je n'avais jamais vécu ce genre de moment au niveau de ma carrière. Ouais. Ça avait moins de sens à l'époque. De la même façon, quand on a fêté de la 5e année de Gémio, les employés avaient, on était une vingtaine d'employés, avaient organisé une fête avec une surprise et fait une vidéo dans laquelle ils se foutaient de la gueule de ma femme, mon frère et moi-même. Et c'était une parodie où ils nous croquaient, ils prenaient nos pires défauts et pendant 15 minutes, ils se foutaient de notre gueule. Et le fait d'être entouré, donc j'ai pas d'enfant une fois de plus, mais de cette famille de 20 personnes qui se foutaient de la gueule des vieux, nous, et de le faire bon enfant, et on avait créé une famille, on avait des cultures communes et des histoires communes, on avait créé un univers, en fait, avec des valeurs, des histoires, etc. Je me souviens m'être dit, c'est magnifique. À l'inverse, il y a eu au moins deux moments au cours des 24 derniers mois où j'ai vécu, moi, l'ex-premier de classe, j'ai vécu, si tu veux, j'ai vu le mur à un moment. Le mur, c'est faire perdre l'argent à tous les investisseurs. Faire perdre l'emploi à tous les employés, planter les clients, l'annoncer à tout le monde socialement, notamment à tes amis, les gens que t'aimes bien, les gens que t'aimes moins bien, les gens dont tu sais qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de te voir échouer parce qu'ils t'aiment pas ou ils ont toujours une compétition mal placée dans leur tête quelque part. Ça a été des moments franchement durs. Et puis d'autres moments dans lesquels il y a eu des déchirements RH, et ça peut être avec des cofondateurs qui sont partis ou des employés qui étaient des gens que j'aimais bien ou que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, il y a eu les deux, mais les clashs humains, moi j'ai aucun amour de la confrontation, j'ai l'impression d'être très froid et rationnel, je vois beaucoup d'irrationalité dans le monde et moi elle me fait souffrir, et du coup ça c'est.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des moments qui font perdre la tête de douleur parce que ils étaient moins intenses quand j'étais employé chez Oliver Heyman, sincèrement, le vendredi soir. Et puis, à la fin du mois, j'avais mon salaire. Qu'est-ce que j'en avais à faire de savoir que la boîte allait se planter? Là, non, c'est pas comme ça que ça marche.
Merci de cette honnêteté et de cette transparence, parce que rares sont les entrepreneurs, tu vois, qui ont ce discours finalement. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'entends pas beaucoup de discours réalistes. Ça commence un peu, mais pas. Merci.
Parce que, bah, je t'en prie, mais en fait, je les comprends un peu. En fait, tu as, en tant que fondateur, tu as un devoir. En fait, tu n'es pas le CEO. S'il n'est pas fondateur ou actionnaire, a priori, il a un rôle très interne d'exécution, de faire exécuter le truc. Mais quand tu es des investisseurs, donc que tu as une pyramide au-dessus de toi de gens à qui tu dois vendre en permanence, que tu dois rassurer, parce que tu dois leur rassurer sur le fait qu'ils t'ont confié l'argent, etc., tu as un peu un rôle de vente en permanence. Mais et en fait, c'est vrai que communiquer sur les mauvaises nouvelles, c'est important, mais ça peut avoir des conséquences où l'argent, les gens se mettent à paniquer, retirent leur confiance, et du coup, c'est pas évident. Ou tu peux le faire, mais tu temporises, en fait. Donc c'est pour ça, là, je suis à l'aise pour en parler, parce que c'est passé. Il y a 18 mois ou 24 mois, j'aurais été très mal à l'aise pour en parler sur le coup, ou je l'aurais nié.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu vrai sur le fait d'avoir au capital un fonds d'investissement?
Ah.
Enfin, je pense que ça fait rêver beaucoup de gens. T'es pas obligé de parler des choses dont t'as pas envie de parler. Je t'oblige à rien, bien entendu. Là, tu vois, je sors d'un jury à HEC, entrepreneurs, où ils présentaient leur thèse. Et il y avait deux thèses qui sont revenues sur les dangers, en fait, ou en tout cas sur une potentielle crise qui peut arriver, comme une explosion de bulle. Excuse-moi, je reviens après à la question, mais moi, je suis assez perturbée. En gros, par ce qu'implique un fonds d'investissement au capital d'une entreprise et par le miroir aux alouettes que ça peut représenter, si tu veux, de dire, ils ont levé tant de millions et après, clac, tout est beau, tout est royal et tout est fantastique. Mais dans la réalité pure, non, c'est pas le cas. Et oui, ça représente aussi un danger pour ceux qui ont une fibre entrepreneuriale aussi, quoi.
Alors,
ma question était un peu longue.
Et non. En fait, ta question est longue, mais j'ai peur de te faire une réponse longue, donc j'essaie de me mesurer parce que, en fait, bon, déjà, je suis pas un spécialiste, je travaille pas dans le métier VC, finalement, des deals, j'en ai fait.
Non, mais c'est ton point de vue à toi qui m'intéresse.
J'en ai fait un de deal, donc tu vois, j'ai pas forcément de recul. Je vais essayer de te théoriser en deux mots ce que je retire, moi, de ma vision, et je vais essayer d'écouter ma psy de l'époque de Harvard qui me dit « Sois sûr de toi, on s'en fout si c'est faux. » J'ai la sensation, Estelle, que l'investissement VC tel qu'on le connaît, tel qu'on en entend parler aujourd'hui, il y a quelques situations qui le méritent, mais pas autant qu'on ne le pense. Déjà, le VC, ça a du sens quand tu... le funding d'equity comme ça, ça a du sens quand tu veux expérimenter une idée, tu as zéro moyen au tout début, et qu'en fait, ça te permet, parce que tu ne veux pas brûler ton argent personnel ou que tu n'as tout simplement pas d'argent personnel, ça te permet de vivre, de manger des pâtes et d'expérimenter et d'avoir un toit, le temps d'arriver à une forme de rentabilité ou de business model ou que sais-je. Ça, je le conçois complètement.
Bien sûr.
Ensuite, il y a un certain nombre de modèles, mais ils sont beaucoup plus rares qu'on ne le pense, je crois, pour lesquels soit tu es numéro 1 dans ton secteur, et dans ce cas, tu rafles toute la valeur de tout le marché, soit tu es numéro 2, 3, 4, 5 et en fait, tu ne rafles pas de valeur. En fait, il y a vraiment une prime au numéro 1. C'est typiquement ce qu'on appelle donc les effets de réseau, les boîtes fondées sur des effets de réseau. Et dans ce cas-là, en fait, ça peut avoir du sens de même vraiment mettre comme l'image qu'on voit partout des fusées sur ton entreprise, parce que si tu arrives à être numéro 1 même de façon outrancière et de façon pas rentable et stupide, quasiment déraisonnable, si tu es numéro 1, la valeur est telle, la valeur que tu récoltes est telle que ça rachète toutes les folies. Donc ça, dans ces business là d'effets de réseau spécifiques, ça peut avoir du sens. Maintenant, il y a aussi d'une part énormément de business pour lesquels ça n'a pas de sens.
Voilà.
Et c'est, j'allais dire, la plupart des business. Parce qu'en fait, la plupart des business qui a du sens, c'est plutôt qu'ils arrivent à la rentabilité, qu'ils soient rentables et qu'ensuite ils financent spécifiquement des projets, mais assez rapidement, ils ont plutôt intérêt à le financer par de la dette ou des choses peu dilutives. Donc pas du VC, en gros. Mais il y a énormément de business dans lequel le business n'a aucun espoir de rentabilité, ever. Ouais. Mais le seul jeu, Et le seul jeu que jouent les fonds et les fondateurs dans ce genre de cas, c'est d'espérer de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre.
C'est ça,
à l'étape suivante, au pire.
Ce terme a été utilisé.
Mais ça, en fait, sincèrement, on ne va pas pointer du doigt trop d'histoires, mais même en France, il y en a.
Bien sûr.
Tout le monde le retiendra, et la presse et les blogs cool tech le retiendront comme magnifique deal à X millions, etc., etc. Mais en fait, si tu te penches sur le sujet 20 ans plus tard, ce qu'en a fait l'acheteur ou ce genre de choses, tu te rends compte que le truc n'a jamais créé un euro de profit, continue à perdre. Et en fait, ça a créé du profit, ça a tiré de la valeur vers les petits malins qui ont réussi à le jouer, autant les fondateurs que les fonds. Mais en fait, la création de valeur au niveau de la société n'existe pas, c'est une destruction infinie. Et ça, c'est ce qui brouille les pistes, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a plus d'entreprises qu'on l'imagine qui ont besoin de VC funding, alors qu'en réalité, je pense qu'il y en a peu. Et ça a créé un doute, on a l'impression que tout le monde en a besoin. En réalité, non. D'ailleurs, dans le cas de Gemio, je ne suis pas certain qu'on fasse partie des business pour lesquels ce soit important. Et si j'avais à le refaire, je ne le referais pas, ou je le referais différemment en tout cas. Et ce n'est pas seulement la faute, pardon, et pour terminer par rapport à ta question, ce n'est pas seulement la faute des fonds ou des fondateurs. C'est que, un, les fondateurs, souvent, c'est des gens qui viennent de milieux, qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont jamais connu la liberté, etc. Ils le vivent comme une forme de liberté sans comprendre les chaînes que ça crée derrière, via le pack d'actionnaires, le board et un millier de choses que tu mets des années à découvrir. Et par ailleurs, les fonds, eux, reçoivent, c'est pas vraiment une pression, mais ont un intérêt à cause de l'économie actuelle et des taux très bas et du quantitative easing, etc. Ils ont énormément de capitaux, donc ils ont une incentive à te faire prendre plus que tu n'en as besoin. Donc, tout le monde est un peu coupable. La réalité, si tu as la tête froide, c'est que dans la plupart des business, c'est pas comme ça, j'imagine, qu'il faut faire. Il y en a peu qui le méritent ou qui en ont vraiment besoin et qui en bénéficieront.
Je partage ton analyse. Est-ce que tu as des défis, des challenges là en tête actuellement?
Ouais. tu veux dire professionnellement?
Bah tout. Non, un défi c'est aussi, tu vois, ça peut être perso.
Écoute, à titre perso, j'aimerais améliorer ma qualité de vie. Je suis fatigué d'habiter dans Paris intramuros et c'est pas facile quand t'as une entreprise. En fait, je me disais, t'as pas d'enfant, tu peux te barrer facilement, pas d'école,
t'as un enfant,
ça.
C'est ton entreprise.
En fait, exactement. Tu peux te dire, t'as un enfant ou t'as même 25 enfants parce que, les employés sont pas des enfants,
mais t'as une famille.
T'as une famille, exactement. T'as une famille, tu peux pas. Du coup, c'est très très lourd et du coup, ça crée des équations compliquées à résoudre. Et ça, c'est douloureux. Donc ça, c'est un challenge pour 2020. Et puis il y a un challenge professionnel qui est que aujourd'hui donc Gemio, c'est une boîte qui est rentable, qui est petite, sexy, resserrée.
Vous êtes quand même assez nombreux maintenant, non?
Oui, mais on est plus petit que ce que...
Vous êtes combien au total maintenant?
On est 25 à peu près.
Ouais, c'est pas...
Non, mais en termes de chiffre d'affaires, sans rentrer dans les détails, on n'est pas une grosse boîte. Et en fait, on est indépendant, on a besoin, donc comme on est rentable, on a besoin de personne, on n'a pas besoin d'investissement extérieur. Mais en revanche, trouver l'équation dans le monde de la joaillerie qui est très spécifique, trouver l'équation pour arriver à créer une croissance systématique et scalable et systématique. Aujourd'hui, on ouvre des boutiques, mais pour moi, c'est pas encore la bonne recette. J'aimerais trouver la bonne recette. Je sais pas si c'est par la franchise, le partenariat, l'international. J'arrive pas à me décider. C'est un vrai défi de décider quelle est la prochaine étape. J'ai très envie que Gemio devienne une très grande famille internationale, parce que pas pour l'argent et pas pour la compétition. J'ai pas le sens de la compétition. Premier de classe, c'est plus le sens de l'achievement plus que le sens de la compétition. Et en plus, je suis plus trop premier de classe, mais parce que j'adore créer des univers, des grands univers. Je voulais être architecte quand j'étais petit. Et en fait, plutôt que d'être architecte de lieu, je suis architecte de concept. Et une entreprise, c'est un concept. Et j'aimerais bien que ce concept soit plus grand, qu'on puisse y balader, qu'il y ait des coursives, des patios, des chambres, un très grand hall d'entrée. J'ai envie de faire ça, quoi.
Mais aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs boutiques. Vous avez commencé cette expansion.
On l'a commencé. On l'a commencé, mais on n'a pas... Ou alors, je ne suis pas encore assez doué. Je n'ai pas de CFO. Je n'ai pas de directeur financier. Je n'arrive pas, comme quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, m'engueule souvent, me dit que je ne sais pas présenter mes comptes ou je ne sais pas interpréter mes comptes, c'est vrai. Je suis très pointilleux, je les comprends mes comptes, mais j'arrive pas à les présenter d'une façon, à les projeter d'une façon qui séduise soit une banque pour m'endetter suffisamment et partir. Non, mais c'est même pas ça, c'est même pas une question de financement. Je n'arrive pas à créer un BP dont je crois, auquel je crois fondamentalement. Ça, c'est une énorme différence. Pardon, je t'interromps, tu vois. C'est une énorme différence par rapport à l'époque des fonds d'investissement. À l'époque des fonds d'investissement, je passais mon temps à faire des BP. Honnêtement, tout le monde savait que tout était faux. Moi, je savais qu'il était complètement faux. Quand vous faites un BP pour des VC, vous marquez que vous allez faire 500 millions de chiffres dans 2 ans. Et ils vous le font signer en annexe. Eux le signent, tout le monde le signe et on signe du champ et on boit du champagne. Mmh. Et du coup, ça fait 5 ans que je fais des budgets comme ça. J'avais pris cette habitude. Mmh. Et là, maintenant que on est indépendant de fonds, c'est hyper différent.
C'est ça, quand même, on peut préciser que tu n'as plus de fonds d'investissement.
Alors c'est officiel depuis 2 jours. On a fait un espèce de petit LBO pour être indépendant et reprendre la majorité absolue.
Alors, félicitations.
Merci. Et du coup. En fait, depuis qu'il n'y a plus de fonds et que du coup, il n'y a plus de, je sais pas, de faux semblants.
C'est toi et toi, quoi.
Tu t'annonces pas, t'annonces pas 50% de croissance, ni même 20% de croissance si tu ne visualises pas chaque euro de croissance. Et tu t'inquiètes même de...
Mais c'est fabuleux.
Est-ce que je vais faire... Ouais, mais en fait, la vraie vie, c'est... Alors là, ça y est. En fait, j'allais dire, j'étais consultant avant, donc je racontais des trucs sur Excel, d'accord. Ensuite, j'ai été financé par des fonds d'investissement et je faisais la bamboula et j'étais investisseur minoritaire. Et là, en réalité, je continuais à faire un peu des Excel et puis si ça se plantait, ben, j'espérais que les gens réinjectent du fric. Là, c'est terminé. C'est-à-dire, ça marche, bravo, ça marche pas, il n'y a personne pour remettre un euro ou très peu de monde. Et ben, ça y est, je sens que j'étais, je croyais être un grand, mais j'avais 14 ans. Maintenant, ça y est, j'ai 18 ans, je suis majeur, je vote et je suis seul et mes parents m'ont mis dehors. Et j'ai le permis de conduire, exactement. Et ben, c'est assez intéressant, c'est assez excitant.
Bah, tu reprends le volant.
Je suis presque étonné, Estelle, que tu me fasses cette, que tu me proposes cette interview, parce qu'en général, moi, ce que je raconte pas mal autour de, à mes amis proches, ça les fait marrer. En ce moment et depuis quelques années, moi j'avais plutôt l'impression que les gens étaient plutôt fascinés par la phase glamour de l'hypercroissance, du hyper growth et du growth hacking. Et là, tu te rends compte que t'es plutôt avec un truc un peu moins glamour.
Ah non, mais attends. Et du coup, c'est pour ça. Mais ce que je trouve glamour, c'est la réalité. Alors après, pas philo. Enfin, on peut épiloguer 25 ans en termes philosophiques, mais c'est non. Moi, je pense qu'il faut. J'ai toujours eu un franc parler, et je veux qu'il y ait ça dans. Tu vois, dans. Mon, je sais pas dans ce que dans mon podcast tout simplement. Et non, je te remercie parce que je pense que et plus je t'écoute. Et plus je me dis que tu devrais être prof. Écoute, ou en tout cas faire des conférences. Donc
j'adore m'écouter parler, c'est
non.
ça
Non, c'est que t'as un discours vrai. Voilà. Et je trouve que c'est important parce c'est que vrai. C'est le seul service que tu peux rendre aujourd'hui, c'est d'être réaliste avec les gens et notamment avec les entrepreneurs. Parce que servir une sauce et faire croire à tout le monde que ça va devenir les futurs Mark Zuckerberg, c'est hyper facile. Mais il y a peu de gens, je pense, dans ton parcours qui vont te dire vraiment les choses, qui vont pas te faire plaisir. Mmh. Et c'est eux, en fait, qui te servent le plus, en
c'est
général.
C'est vrai, je suis d'accord. Mais je me contrôle quand je le dis, parce que je veux pas non plus que ça tombe dans la caricature inverse de dire les VC funds, ça sert à rien. Parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça a du sens. Mon fonds d'investissement qui est Alven Capital est un fonds qui est, je pense, parmi les plus sérieux de France. Et je même si en réalité, je pense qu'on est... On n'était pas une boîte faite pour le VC et on s'en est rendu compte collectivement. Donc, et puis il y a des entreprises qui méritent ce genre et qui ont intérêt d'ailleurs à choisir des bons investisseurs comme Alven plutôt que d'autres fonds. Pour le coup, il y a des fonds de VC qui sont vraiment des. Enfin, je pense qu'ils sont pas très sérieux. Maintenant, voilà, ouvrir les yeux et ne pas être angélique. Et ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que nous là, on est dans le cadre du privé et du cadre intimiste d'une conversation. Honnêtement, je suis un peu effrayé et effaré de temps en temps de ce que je vois au niveau de l'État, parce que honnêtement, j'entends certains discours au niveau de l'administration, donc de mes impôts. Je me dis, bon, alors, moi, il m'a fallu 8 ans pour m'en rendre compte, mais j'ai pas d'impact au niveau de tout le pays. Certaines personnes au niveau du pays, je pense, ont cette forme de naïveté. et on risque d'avoir un impact désastreux sur des sommes monstrueuses et de fourvoyer un peu.
Tu veux qu'on détaille un peu ou...
Non, parce qu'il faut. J'ai appris à pas parler. Parce qu'en plus, ça peut devenir politique, alors qu'en fait, c'est plutôt une vue économique.
Non, c'est... Mais de toute façon, le politique aujourd'hui, il est économique. Il est plus.
En fait, nos amis protestants. Tiens, un autre bouquin. Max Weber, l'éthique du protestantisme, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié. C'est un trip de normalien. C'est très difficile à lire moi-même. J'ai pas compris grand-chose, mais il y a du vrai là-dedans. Il explique comment pourquoi les protestants, en tout cas, ont un état d'esprit différent de nos amis allemands et suisses, par exemple, ou néerlandais. Et je l'ai vu à Harvard. Ils ont une approche du boulot. En fait, ils célèbrent moins le cool, le glamour, le gros et le machine learning. Et ils sont plutôt en mode, ils admirent la petite entreprise qui fait des brosses à chiottes parfaites, mais les meilleures brosses à chiottes du monde. Et honnêtement, magnifique ce qu'ils font.
Mais c'est ça, en fait, si tu veux, c'est que je crois que la France, en très peu de temps, je viens d'un milieu entrepreneurial. Mon père est entrepreneur, ma mère aussi. Et quand mes parents me disaient, mais demain, tout le monde sera entrepreneur. Et je comprenais pas ce qu'ils me disaient parce que je me disais, mais non. Et au final, la France a vécu une espèce de virage à 180. On est passé de, les entrepreneurs sont en gros des voyous à, il y avait un côté, ils étaient soit montrés du doigt, soit jalousés, soit je ne sais quoi. Bon. Ah, maintenant, il faut que ça. Et non. Donc, je sais, je me répète. Donc, les gens qui écoutent tous mes épisodes, tant pis, je me répète. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est le premier truc. Ou en tout cas, pas dans le monde dans lequel on vit. Et qu'il n'y a pas de complexe à avoir à l'égard de ça. Par contre, avoir une démarche entrepreneuriale, tu vois, dans sa vie de tous les jours, ça, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance. Mais ce que je voulais dire juste, c'est l'austérité aujourd'hui, ou le côté moins glamour, justement.
À ses avantages.
Des avantages incroyables, parce qu'en fait, les gens ne soupçonnent pas le nombre d'ETI, donc d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME en France, qui gagnent beaucoup plus de fric, qui sont beaucoup plus pérennes que certaines boîtes, si tu veux, qu'on voit partout, dont on entend tout le temps
surtout
parler.
Surtout qui créent des emplois, en fait, qui rendent fiers. Moi, je me souviens, en Inde, j'avais travaillé dans une entreprise qui n'est pas du tout connue, qui est discrète mais qui est rentable et qui du coup apporte de l'emploi à 5000 employés indiens. Et je voyais la fierté des employés et le fait que c'était leur dans le chaos de Mumbai un endroit qui était propre, bien tenu, où les gens souriaient, avaient des règles, des valeurs, savaient qu'ils servaient à quelque chose, qu'ils avaient un impact, etc. Moi, j'ai une fascination pour le monde de l'entreprise au sens large, et donc pas des startups spécifiquement, mais de l'entreprise. Je trouve que c'est un lieu c'est probablement la cellule qui m'intéresse le plus. C'est la cellule qui m'intéresse plus que la famille. C'est une cellule que je trouve qui m'intéresse plus que l'école. Je trouve que c'est une cellule qui est scalable, qui est self-sustainable. Enfin, attends, je vais arrêter les anglicismes. Contrairement à l'école, elle n'est pas financée par l'extérieur. Elle s'auto-finance. Elle peut grandir à l'infini, contrairement à la famille où passer 14 enfants, c'est un peu difficile. Elle grandit autant que
tu veux. C'est beau ce que tu dis.
Elle s'auto-finance. Elle peut changer, elle a la flexibilité, contrairement à une religion qui, honnêtement, peut avoir du mal à changer en millénaire. Elle peut changer ses valeurs, elle peut faire évoluer son ADN à un rythme qu'elle-même choisit. Et on peut en être membre, en être fier et en y passer toute une vie si on s'y plaît. Pour moi, c'est une cellule, un moteur d'éducation et de prospérité. Et c'est Harvard, le dean de Harvard qui le disait beaucoup, qui disait que Business is the main source of prosperity for society. En gros, l'entreprise est la principale source de prospérité et même de bonheur, je pense. Enfin, peut être une source de bonheur dans la société. J'y crois vachement. Et quand je dis ça, ça fait peur à certains qui érigent comme une religion, je sais pas, la famille, la sauce, le pays, le... Non, moi, je suis à l'aise avec le fait de dire que l'entreprise peut être une très belle cellule. Ça peut être des cellules malades et dangereuses et des environnements pourris, mais comme peuvent l'être une famille, by the way.
Bien sûr.
Mais l'entreprise a des avantages d'être capable de grandir, d'évoluer et de ne pas avoir de limites c'est magnifique.
Mais pas d'enfants. Tu veux pas d'enfants?
Pas d'enfant. Moi, j'hésitais. J'étais un peu indifférent. Pauline n'avait pas très envie. Puis, au fur et à mesure du temps, en fait, pour tout te dire, par exemple sur le débat de tout ce qui est écologique, tu vas me demander tout à l'heure quel est mon coup de gueule, mais c'est pas celui-là que j'avais prévu. J'aime pas, en fait, je me sens très moralisé souvent sur beaucoup de choses que je peux faire. Par exemple, j'aime bien voler, je suis pilote d'avions privés, petits avions hélices. Ça me plaît, mais du coup, ça pollue plus que de faire du vélo. Et en fait, depuis que j'ai découvert une étude qui montre que globalement, le fait d'avoir un enfant fait par chaque année et par enfant, ça pollue plus 700 fois plus que de faire même des vols transatlantiques ou un truc comme ça. À chaque fois que j'ai des gars qui me cassent la tête pour me dire que je suis un pollueur parce que j'ai fait une heure d'avion à tourner en rond parce que ça me plaît, je leur dis écoute, moi j'ai fait mes choix, en contrepartie je ne vais pas, j'estime que la terre est surpeuplée, toi t'as pas l'air de te poser la question, t'as déjà trois gosses, au moins chacun respecte ses choix et fous-moi la paix. En tout cas, je suis d'accord qu'il vaudrait mieux que je préfère fasse du vélo plutôt que du karting, mais en revanche je ne te permets pas de me moraliser si tu as trois enfants et que du coup même si je fais des allers-retours tous les jours Paris Los Angeles, j'arriverai pas à polluer autant. Non mais même faut que je passe ma vie dedans et j'y arriverai pas.
Donc voilà. c'est avant tout pour ça. C'est plutôt...
En fait, c'est amusant. C'est qu'il n'y avait pas de vocation et peut-être c'était tôt, j'étais pas prêt, etc. Et en fait, c'est juste un choix qui me met à l'aise et du coup, je me sens... C'est pas que je cherchais à me laver ma conscience, mais je me dis que du coup, mon empreinte est équilibrée et au moins, je vais pas surpeupler le monde. J'estime que le monde a un peu surpeuplé. Je préférais... Voilà, par exemple, si un jour on a des enfants avec Pauline, à mon avis, ce sera de l'adoption. Je pense. C'est mon instinct. Peut-être que on refait la même interview dans 10 ans, j'aurais changé d'avis, mais globalement, c'est un argument qui a permis de mettre un terme à une discussion interne.
Je comprends.
D'éviter de faire prendre une décision supplémentaire.
Qu'est-ce qui t'inspire le plus au quotidien, tu vois? De quoi tu te nourris? Est-ce que tu as des rituels obligatoires pour entretenir ton cerveau? Ton cerveau ou ton corps, enfin, tu vois, ton état d'esprit, est-ce qu'il faut que tu lises 3 bouquins par semaine? Est-ce qu'il faut que tu regardes des documentaires? Est-ce qu'il faut que tu... Est-ce que tu as des trucs comme ça obligatoires?
Alors, c'est une bonne question. J'ai peu de routine. Pauline se moque souvent de moi parce que j'aime bien les douches longues. Quand ça va pas, je prends une douche longue. C'est quand même pas très glamour. Il y a un truc que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que pour la performance, c'est paradoxalement, pour la performance boulot, j'ai remarqué que si je fais du sport, même peu, le matin, je fais ma natation, ou je fais un peu de course à pied, ou un truc comme ça, et que je mange peu, mon cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif et je suis meilleur et je prends mieux mes décisions. Et donc, en fait, c'est presque plus par passion pour l'entreprise et le fait que je trouve que je suis pas encore loin d'être bon.
Une ressource, donc tu...
Exactement. Je me dis, c'est un outil. Et maintenant, je vis le sport différemment. Je me dis, Exactement. C'est pour que mon cerveau fonctionne dans la journée. J'ai remarqué que sinon... À l'époque où j'étais consultant, où je faisais des repas lourds à midi et que je faisais peu de sport, en fait, l'après-midi partait en l'air et mon cerveau était lent. Là, je fais en sorte que ce ne soit pas le cas. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mes actionnaires, de mes employés et de mes clients.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais que tu ne veux pas parler de politique, mais moi, je trouve quand même que tu as une âme de président. Enfin, moi, plus je t'écoute parler, plus je me dis quand même...
Passé... Alors, tu vois, Estelle...
Non, mais tu as une âme de président au sens... Mais après, j'ai rencontré peu de gens comme ça où je me dis, t'as une âme de président au sens, t'as un sens politique, tu vois, malgré toi.
Bon, écoute, je le prends comme un compliment.
Et oui, c'est un compliment.
Je te remercie. Maintenant, déjà, j'ai un passé. Je pense que les quelques personnes que je connais autour de moi qui ont des ambitions politiques l'ont su très tôt. Fait attention à avoir tu sais, une enfance parfaite dans laquelle il n'y a pas une photo de Facebook où ils sont bourrés, où ils disent « moi, honnêtement, c'est trop tard ».
Quand je dis âme de président, c'est que je pense qu'en fait, depuis quelques années maintenant, on s'est rendu compte que la fonction était un peu accessible, tu vois, et que finalement, les cerveaux commençaient à changer au niveau de l'État et l'ADN aussi. Même si je ne veux pas faire de politique et que tu n'as pas forcément envie de faire de politique, mais... Si tu étais président de la République, tu vois, ce serait quoi tes priorités en thématique? J'ai même pas demandé de rentrer dans les détails de la fiscalité, de la droite, la gauche. Enfin, tu vois, si tu avais 3 thématiques où tu te dis, mais attends, moi, si je suis à la tête de l'État demain, je m'attaque à ça, ça et ça.
Waouh. Mais tu vois, alors j'ai une réponse. Mais dès que je vais rentrer dedans, je vais aller trop loin, je vais m'en vouloir.
Alors, ne réponds pas.
Non, je vais juste dire, je vais pas te dire par où je partirai. Je vais juste te dire, je vais te donner un des éléments de ce que je ferai, parce que je l'ai déjà dit et que ça t'éclairera un petit peu. Je ferai confiance aux entreprises pour éduquer et emmener les citoyens. Mmh. Et quand je dis éduquer et emmener, c'est éduquer, donc leur apprendre à vivre, leur apprendre à se tenir, leur apprendre... Ce que faisait beaucoup l'armée à une époque, à mon avis. J'ai pas connu l'armée, mais j'ai une grande, grande admiration pour l'armée. Et je pense que c'est une école de la vie de dingue. Et je regrette de pas avoir fait une vraie formation militaire. À un moment, ça m'aurait vraiment fait du bien.
Mais ça aurait fait du bien à beaucoup de monde, je pense.
Ouais, voilà. Mais disons que je pense que ça peut permettre aux gens d'apprendre à vivre, d'apprendre à vivre ensemble, à se respecter, d'apprendre à la morale de l'effort, de la discipline.
Puis à mettre tout le monde au même niveau, en fait.
À mettre les gens au même niveau quand il le faut, à respecter une forme de méritocratie quand il y en a, à aussi comprendre que l'ancienneté ne fait pas tout, qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver, et nous c'est le cas chez Gémio, il y a des jeunes qui se retrouvent à des postes de fous, il y a des vieux qui se retrouvent à des postes... Et pourtant tout le monde le vit bien. Donc je ferai confiance à l'entreprise pour le faire. Et en plus, il y a une autre, je pense qu'il y a quelque chose qui pend au nez de la société des pays riches. Maintenant, honnêtement, les gens, je sais que ça n'est pas vrai pour tout le monde, pas que je me fasse pourrir sur les réseaux sociaux après cette interview, mais beaucoup de gens ont de quoi se nourrir un minimum et avoir juste de quoi s'abriter un toit pour dormir. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Il n'y a jamais eu aussi peu de pauvreté dans le monde, au niveau mondial. Et du coup, l'étape suivante, c'est quel est le sens, à quoi je sers, quelle est l'aventure, comment je vais ne pas m'ennuyer. C'est le combat de l'ennui, en gros.
D'accord.
Et honnêtement, contrairement, et quand on imagine l'entreprise, on imagine des couloirs gris avec du faux plafond dans une entreprise dont on ne comprend rien, typiquement certaines boîtes du CAC 40 où on ne comprend plus du tout à quoi on sert. Mais en fait, au contraire, tu vas dans le Mittelstand, tu vas dans les entreprises dont je parlais, de taille moyenne, mais ces entreprises-là, les gens qui, souvent, si les fondateurs sont des gens bien, mais ils ont un message, ils créent le sens, ils créent l'aventure pour tout le monde. Les gens vivent leurs propres aventures, ils peuvent agrandir l'aventure, ils peuvent faire de leur bateau. C'est comme de créer son propre bateau et partir
avec
chercher.
Avec la part de responsabilité que ça implique aussi, tout Exactement. Comme les VC d'ailleurs, c'était ce que je voulais dire sur les VC, c'est que tout le monde dans l'entreprise aujourd'hui, vu la place fondamentale de l'entreprise, quelle qu'elle soit dans la société, qui devient de plus en plus économique, tous les participants à l'aventure, que ce soit les actionnaires, les entrepreneurs, les VC, etc., les salariés, bien entendu, on a une responsabilité et je pense que les gens n'en prennent pas encore suffisamment conscience, tu vois.
Et ben...
on a tendance encore à se dire qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections mais je crois vraiment que le pouvoir peut s'inverser, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où...
Si tu veux, la mode dont tu parles quand tu dis la France a basculé en mode tout le monde doit être entrepreneur, en fait, je pense que tout le monde pense qu'il doit être entrepreneur ou la France s'est réveillée sur l'entrepreneuriat en se disant c'est la bonne direction. Je suis pas certain que la France ou les médias ont compris pourquoi il y a ce revirement. Je l'interprète ils ont fait la moitié du chemin. La moitié du chemin, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait plus d'aventure, plus de sens et moins d'ennui à prendre des risques, à retrouver le goût du risque. Parce qu'en fait, la France est quand même un pays, enfin, il y a qu'à regarder les assurances chômage et compagnie, dans laquelle le risque qu'on nous a érigé en modèle la minimisation des risques, il n'y a qu'à regarder même ce qu'on lit dans les médias et en ce moment. En réalité, les gens se réveillent et se disent « Ah ben en fait, le risque, ça épice. Ben oui, c'est pas bien quand je me prends un coup, mais quand ça se passe bien, ben ma vie a du goût. » Et du coup, l'entrepreneuriat a répondu inconsciemment à cette envie de risque, de reprise de risque. Mais c'est un peu puéril parce que tout le monde est en mode « Il faut être entrepreneur, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. » Et on le détache de « Non, non. » Il faut que ça crée de la valeur, il faut que ce soit... C'est pas l'État qui a à payer pour que les gens prennent du risque, c'est tu prends ton risque, mais tu les assumes, tu as de la responsabilité. Donc si tu te plantes, ben, tu perds tout. Et donc, on a fait la moitié du chemin, la reprise vers le risque, mais il faut pas que ça se fasse que ça se fasse avec des filets de sécurité, sinon, automatiquement, il n'y a plus de risque et ça ne marche pas. Comment on dit en français ? It defeats the purpose. C'est-à-dire, c'est...
Ça anéantit la cause.
Ils veulent du risque, mais en fait, s'il n'y a pas de risque et que tu as un filet de sécurité, en fait, ça ne marche pas et de nouveau, tu fais une dépression. Donc, en fait, il faut aller jusqu'au bout.
Je pense que tu devrais devenir un rendez-vous, tu vois, mensuel sur un podcast, parce que tu as plein de choses à dire et c'est passionnant. Donc, j'ai coutume de demander un coup de cœur et un coup de gueule à mes invités. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as un coup de cœur récent et un coup de gueule récent ?
Bon, alors, le coup de gueule, on va dire que c'est celui que je t'ai fait tout à l'heure sur la moralisation de certains de mes amis qui me reprochent de faire de l'avion à titre privé. Et une fois de plus, je sais que ça pollue plus que le vélo, mais quand ils me le déclarent avec leur palanquée de gosses, je ne sais pas s'ils ont balayé devant leur porte. Voilà, donc ça, c'est mon coup de gueule. Mmh. Alors, mon coup de cœur, c'est un truc un peu absurde. J'ai un de mes amis de Harvard qui travaille pour le fondateur d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, qui est très connu, oui, qui est un jeu qui est très joué, et qui m'a invité au championnat du monde de League of Legends. Donc, c'est des championnats du monde de e-sport. Et donc, j'étais avec lui et le fondateur du jeu. Et j'y suis allé les mains dans les poches sans savoir à quoi m'attendre. Et on était donc, c'était au Accor Arena à Bercy, et il y avait 12 000 personnes dans la salle. Et honnêtement, en plus, je suis pas très stade, je suis pas très concert, je vibre pas tellement avec les gens. Mais là, j'ai vu un nouveau monde que je ne soupçonnais pas.
C'est ce que tout le monde dit.
C'était incroyable. Déjà, la qualité des événements, du spectacle qui était fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, il y a une cérémonie d'ouverture qui était d'une excellente qualité. La musique, l'ambiance et juste l'excitation des gens autour de ce jeu, c'était un moment qui m'a vraiment marqué. Et du coup, je le referai volontiers et je le conseille aux gens.
Avec un trophée remis par LVMH ?
Tout à fait, dans un écrin.
Qui a décidé de, à mon avis, mettre un pied dans le monde du jeu.
Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, en fait, la très grande majorité des joueurs de League of Legends sont asiatiques, en particulier chinois, donc LVMH connaît bien sa clientèle.
Donc, ils vont nous faire du placement de produits, non ?
Ah, mais c'est, en fait, pour le coup, LVMH, je les connais via la côté joaillerie, on va dire. Je sais que là, ils ont une très, très grosse cliente. Enfin, d'ailleurs, les maisons de la place Vendôme vendent principalement à des étrangers, quasiment pas des Français. D'ailleurs, c'est toute la théorie de Gémio de vendre nous à des Français. Donc là, ça n'a pas raté. Je pense que c'est pour, d'ailleurs, les gagnants étaient asiatiques du championnat. Dans la salle, il y avait énormément d'Asiatiques et les joueurs étaient asiatiques également. Et effectivement, le trophée, bon, il est, c'est sympa et osé. Franchement, c'est malin de leur part. Maintenant, c'est pas ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu surtout, je te dis, c'est comme dans les Jeux Olympiques, il y avait une chorégraphie et des musiques et des effets spéciaux que j'ai jamais vus et que j'ai trouvé exceptionnels. Et du coup, je crois qu'il y a la vidéo. C'est en fait, c'est avec, une mise en scène augmentée dans laquelle il lie du digital avec de l'humain. C'est extrêmement bien fait. Je sais pas si la vidéo sur YouTube, on voit ce qui se passait en réalité, mais moi, j'avais les yeux écarquillés, j'ai jamais vu ça. C'était magnifique.
Eh bien, Sharif, on arrive à la fin, malheureusement. Tu vois, je suis triste parce que, on aurait pu continuer pendant des heures.
Mais écoute, je t'en prie, tu as une voix très très douce, très apaisante. Je pourrais rester encore très longtemps. C'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie cheminée, tu vois. Parce que là, j'aurais fait les. Elle fonctionne ou pas ?
J'ai jamais essayé.
Franchement, là, longue soirée d'hiver avec un bon thé, je fais ça autant que tu veux.
Merci, Sharif. Merci.
Merci à toi, Estelle.
Bonne chance, bonne aventure et bonne conduite.
Merci. À très vite.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.